Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école, utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx, les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, les 21 conditions d'admission à l'international communiste.
Parmi ces manifestes qui ont indéniablement changé le cours de l'histoire, les 21 conditions d'admission à l'international communiste. Traumatisés par la boucherie de la guerre de 1914-1918, nombreux sont alors les militants anarchistes, socialistes, syndicalistes, à s'exalter devant une révolution russe qu'ils imaginent avoir mis à bas le capitalisme pour le meilleur. Voulant contrôler cet enthousiasme, Lénine, désormais figure dominante de la révolution mondiale, rédige ses règles de fonctionnement d'une internationale, comme il le dit, devenue à la mode. Avant même la victoire des bolcheviks, il en avait conçu le projet, dans l'espoir d'étendre la révolution qui ne pouvait, selon lui, n'être victorieuse qu'en s'étendant à toute l'Europe et non limitée à la seule Russie paysanne et arriérée. D'emblée, les grandes figures du socialisme européen, qui n'ont pu ou su empêcher le déclenchement de la Grande Guerre, sont nommément désignées comme indésirables. Kautsky en Allemagne, Longuet en France, Modigliani en Italie et d'autres encore. Partout, des scissions sont mises en œuvre. Il s'agit d'écarter tous ceux qualifiés de réformistes, d'opportunistes, de saboteurs de la révolution prolétarienne et même de traîtres à abattre. À Londres, à Paris, Budapest et Berlin, révolution et contre-révolution s'affrontent. Mais l'élan de l'armée rouge vers la Pologne est bientôt stoppé. En Italie, les fascistes de l'ex-socialiste Benito Mussolini font reculer le mouvement ouvrier. En Allemagne, les nationalistes, anticommunistes et antisémites ont déjà exécuté Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Et comme signe avant-coureur de la victoire du nazisme, ils assassineront bientôt le ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, l'ami de Stefan Zweig. Mais en ce mois de juillet 1920, la période est à la guerre civile, programme Lénine de Moscou. C'est dans ce contexte qu'est véritablement lancée la troisième internationale, le Comintern, selon son acronyme russe. L'intensité de l'affrontement de classe justifie-t-elle d'abandonner les principes démocratiques? Telle est la question à laquelle le socialiste Léon Blum apportera une réponse prémonitoire sur ce que deviendra le mouvement communiste. Afin d'échanger sur l'histoire de la rédaction de ces 21 conditions d'admission à l'international communiste, de leur enjeu, de leur postérité, nous avons avec nous Stéphane Courtois. Bonjour.
Bonjour.
Historien du communisme, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'âprement discuté « Livre noir du communisme ». Vous venez de publier avec Galia Ackermann le « Livre noir de Poutine » aux éditions Perrin. Avec nous, nous avons aussi Yolaine Dillas-Rochorieux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du politique, spécialiste de la pensée communiste. Vous avez publié en 2020 aux éditions Vendémiaire « Rien n'est à personne, du communisme au commun, retour aux origines ».
Alors, Stéphane Courtois, pouvez-vous nous rappeler le contexte de ce congrès, deuxième congrès, mais en réalité vrai congrès fondateur de l'international communiste?
Oui, alors effectivement, comme Didier Lesky l'a dit tout à l'heure, Lénine voulait absolument, était un internationaliste. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Il ne croyait, en bon marxiste d'ailleurs, il ne croyait pas au phénomène national. Il était internationaliste et d'autant plus internationaliste que la guerre de 14 semblait montrer que les nationalismes déchaînés conduisaient à de grandes catastrophes. Hein, et donc, s'étant emparé du pouvoir à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou en novembre et décembre 1917, il a eu presque immédiatement l'idée de créer une internationale. Il avait d'ailleurs déjà annoncé cette idée dès l'automne 1914. Hein. Donc, et dans un mouvement de répulsion justement à l'égard de tous ces socialistes qui avaient adhéré à ce qu'on appelait à l'époque l'Union sacrée, c'est-à-dire qui s'étaient ralliés à leur propre gouvernement, que ce soit les socialistes français face à l'Allemagne ou les socialistes allemands face à la France. Hein. Donc voilà, il décide de créer une internationale. Il va la créer en 1919, d'abord, mais c'est un mouvement avorté à ce moment-là. La Russie est en pleine guerre civile, les communications sont très difficiles, il y a encore très peu de militants socialistes ralliés au bolchevisme, hein, le bolchevisme étant un mouvement spécifiquement russe. Hein, et donc voilà, il décide en 1920 de faire ce fameux deuxième congrès qui est de fait le vrai congrès de création, où là il y a des dizaines et des dizaines de délégués venus de toute l'Europe et qui représentent effectivement toute une partie du mouvement socialiste européen, soit déjà rallié aux bolcheviques, soit en train de se poser des questions. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, en particulier pour les socialistes français, puisque deux des principaux chefs de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, vont aller à Moscou pour participer à ce deuxième congrès en juillet 1920, Cachin et Frossard. Hein. Et donc voilà, alors dans quel contexte? Dans un contexte assez particulier du côté français et du côté international. Du côté français, il y a eu des élections à la sortie de la guerre en 1919. La SFIO pensait remporter ces élections. Grande illusion, puisque on a abouti à ce qu'on a appelé la chambre bleu horizon, c'est-à-dire une chambre ultranationaliste de droite, etc. Et les socialistes français ont été extraordinairement frustrés par ce résultat un peu désastreux qui les mettait même en retrait par rapport à avant 14. Ça, c'est une première chose. Sur la base de cette frustration, on a eu au début de 1920 un mouvement social très important, avec une grève générale qui a été annoncée, qui n'a pas été vraiment générale, mais qui a quand même été extrêmement suivie, et suivie y compris de violences très fortes. Une grève qui a surtout affecté les chemins de fer. Hein, voilà, ça n'est pas nouveau. Nous connaissons bien ça en France, mais en 1920, ça a été particulièrement sévère, puisque 20 000, rappelons qu'à l'époque, la SNCF n'existait pas, c'était des compagnies privées, et 20 000 cheminots ont été révoqués. Donc, inutile de dire que le ressentiment social a été extrêmement violent chez ces gens-là, hein, et ils se sont radicalisés, évidemment, assez rapidement, et plusieurs de leurs leaders deviendront rapidement des grands leaders du Parti communiste français qui va naître à la suite de tout ça. Donc, voilà, pendant cet été 1920, il y a déjà en France un climat social extrêmement radicalisé et un parti socialiste, une SFIO, qui elle-même est en train de se radicaliser avec des courants très opposés, des courants... Parce qu'il faut rappeler que dans cette SFIO, il y a des gens qui ont participé au gouvernement d'Union sacrée depuis 1914 jusqu'à 1917. Hein, Albert Thomas était ministre des armements, par exemple, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a des tensions extrêmement fortes. Ça, c'est le contexte français national. Le contexte international est encore tout autre. Donc en France, on est dans un climat de radicalisation. Mais au niveau international, Lénine... Alors, il y a un conflit entre les bolcheviques et la Pologne, le pouvoir polonais qui s'est instauré... Rappelons que la Pologne, qui n'existait plus, a été réinstaurée après 1918, et avec le fameux Pilsudski, qui, avec des troupes qui d'ailleurs avaient combattu en France, est allé s'emparer du pouvoir en Pologne, avec l'accord des alliés, bien entendu, après dans le cadre des négociations du traité de Versailles. Et cette petite armée polonaise, comme il fallait reconstituer la Pologne et que les frontières étaient particulièrement floues vers l'Est, elle a avancé vers l'Est. Et dans le même moment, l'armée rouge a avancé vers l'Ouest. Ils ont fini par se rencontrer. Et dans un premier temps, en juillet 1920, l'armée rouge a déferlé vers la Pologne sur des centaines et des centaines de kilomètres. Il faut rappeler que c'est d'ailleurs une région où il y a actuellement en Ukraine des combats très importants. C'est une région qui est tout à fait plate, c'est une vaste plaine, donc il n'y a pas beaucoup d'obstacles, il faut juste passer les fleuves. Hein. Donc voilà, cette armée rouge se lance à l'assaut de la Pologne. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'il semble tout emporter, où déjà Lénine a mis sur pied un gouvernement communiste pour la Pologne, et pense que bon, l'armée rouge va prendre Varsovie, bien entendu, et va foncer vers l'Allemagne. Et ça, c'est pour Lénine, c'est essentiel. S'il y a révolution en Allemagne, alors on va tout gagner, parce que l'Allemagne est la grande puissance industrielle qui va se mettre au service du bolchevisme.
On reviendra sur cette question de la révolution en Allemagne, mais Yolène Dillas-Rocherieux, au cœur de ces 21 conditions, il y a une philosophie politique qui est celle du communisme. Et à la fin du reste de ces 21 conditions, il y a cette idée que chaque parti devra s'appeler communiste. Pourquoi c'est important, cette rupture avec les socialistes?
Alors, c'est extrêmement important parce que depuis Marx, d'une certaine manière, la frontière entre communisme et socialisme n'est pas nette. Ça, c'est Marx, on le sait, qui a un peu croisé théorie socialiste et l'idée communiste. Et donc, avec les 21 conditions, avec Lénine, désormais, d'un côté, le socialisme, de l'autre côté, le communisme, et on retrouve le noyau dur du communisme, c'est-à-dire la richesse est la cause de tous les maux de l'humanité, corruption, guerre, etc. La solution est dans son éradication. Donc on retrouve là les deux formules socialisme-communisme, à chacun selon ses besoins pour le communisme, à chacun selon son travail et son talent pour le socialisme. Et donc, d'un seul coup, il y a non seulement une rupture dans le mouvement, mais il y a une rupture dans la pensée et dans l'idéologie. Et ça, c'est extrêmement important quand on regarde ce qui s'est passé avant. Avant 1848, communisme et socialisme sont radicalement séparés. Hein, d'un côté, la pensée socialiste qui met en avant une analyse scientifique de la société, et de l'autre, la pensée communiste, c'est-à-dire c'est la richesse. Donc ce n'est pas du tout scientifique, si vous voulez. C'est Marx qui va croiser ces deux éléments. Et donc, de 1848 jusqu'à presque la révolution de 1917, c'est très flou. Et c'est pour ça que les socialistes se retrouvent chez Marx. Chacun prend chez Marx ce dont il a besoin, d'une certaine manière. Avec Lénine, c'est fini.
Oui, il y avait cette idée chez Marx d'un mouvement ouvrier uni. Et là, l'international communiste va profondément le fracturer.
Alors, chez Marx, un mouvement ouvrier uni, pas tout à fait quand même. Hein, Marx avait quand même ses ennemis.
Bien sûr, les anarchistes.
Les anarchistes, les réformistes, non. Mais au moins, faut savoir quand même que Marx n'est pas tellement connu jusqu'aux années 1890, et que c'est les socialistes, les sociodémocrates russes et allemands qui vont faire connaître Marx. Donc, voilà. Hein, c'est...
Alors, au cœur de ces 21 conditions, sur le plan organisationnel, c'est un peu la projection à l'international du livre fameux de Lénine qui s'appelle « Que faire ?», c'est-à-dire l'idée du centralisme démocratique, Stéphane Courtois.
Oui, alors, bien entendu, il y a à la base de ces 21 conditions, et surtout sur la question de l'organisation, parce que dans les 21 conditions, il y a aussi des éléments programmatiques de fond, hein, en particulier sur la notion de guerre civile. Bon, ça, c'est répété pratiquement dans toutes les conditions. Hein. Lénine rappelle en permanence que nous sommes dans la période de la guerre civile. Bon, ce qui reflète la situation russe, mais pas du tout la situation dans d'autres pays. Alors, qu'il y ait des conflits sociaux, c'est incontestable. Je viens d'en parler pour la France. Il y avait aussi des conflits sociaux très importants en Angleterre au début des années 20.
Italie.
En Italie, bien sûr. Aux États-Unis aussi. Mais bon, on n'en était pas encore à la guerre civile, même si c'est vrai qu'en Italie, à partir de 21-22, on commence à rentrer dans une guerre civile. Hein. Donc voilà, ça, c'est l'idée principale de Lénine. De toute manière, nous sommes entrés dans une période de guerre civile et c'est ce type de situation qui oblige les communistes à adopter un système d'organisation bien particulier qui va définir justement dans ces 21 conditions. Mais c'est une idée qu'il a depuis 1902, hein, puisque c'est en 1902 qu'il va publier ce fameux livre « Que faire ?» où il va proposer un nouveau modèle de parti politique. Et ça, c'est très important, puisque c'est effectivement ce type de parti politique qui va déboucher sur la naissance des partis totalitaires. Mais cela dit, Lénine ne fait que s'inspirer, en particulier d'un activiste révolutionnaire russe bien connu à son époque, Serge Netchaïev, hein, qui avait publié un catéchisme du révolutionnaire où déjà beaucoup d'éléments de la pensée de Lénine sur les questions d'organisation étaient là, puisqu'il s'agissait d'un parti clandestin formé de gens triés sur le volet, sélectionnés, ce que Lénine appellera des révolutionnaires professionnels, ce qui fait que ce projet de parti est extrêmement différent de ce qu'est un parti démocratique banal, je dirais, y compris un parti de classe. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le dernier tiers du 19e siècle et jusqu'en 1914, on a une formidable montée de la démocratie parlementaire dans toute l'Europe avec des partis de classe. Il y a des partis ouvriers, les partis sociodémocrates, il y a des partis bourgeois, il y a des partis catholiques, il y a des partis paysans, etc. Bon, mais le fait que ces partis soient des partis de classe ou d'idéologie ne mène pas à la guerre civile. Au contraire, c'est justement le rôle du Parlement de faire en sorte qu'il y ait un minimum de consensus qui s'établisse. Avec Lénine, c'est tout à fait le contraire. On crée un parti de révolutionnaires professionnels fermé sur lui-même, formé de clandestins, à l'image de ce qui s'est passé en Russie, en particulier depuis 1905, puisque la première révolution intervient en 1905. Et ça va être d'ailleurs la naissance, dès 1903, la naissance de la fracture au sein du mouvement socialiste russe, bolchevique et menchevique, puisque Lénine veut imposer ce type de parti, alors que son meilleur camarade jusque-là, qui va devenir son meilleur ennemi, le fameux Martov, lui dit non, pas du tout. Le parti doit être, bien sûr, il doit y avoir des permanents, il doit y avoir des gens qui sont des professionnels de la révolution, mais on doit aussi être un parti ouvert, avec des sympathisants, avec des ouvriers qui travaillent la journée et qui militent le soir, etc. Lénine, non. Hors de question.
Mais on va revenir sur le détail de ces 21 conditions, à la fois en termes idéologiques et d'organisation. Mais une première réaction, quand on relit ces 21 conditions, auxquelles on rajoutera la 22e, le moment venu, secrète, c'est le ton de ces conditions, le ton employé, qui est comminatoire, impératif, systématique. On a l'impression que chacune des conditions est un ordre militaire donné. Donc, Vous parliez de la frontière qui s'établissait à ce moment-là entre socialisme et communisme. Alors là, pour les socialistes de l'époque, ça a dû quand même faire un sérieux choc, non ?
Oui, Violaine Dillas-Rochereau.
Surtout que c'est la fin de l'autonomie de la pensée. Et ce qui caractérisait les socialistes dans leur diversité, c'était quand même une richesse. Il y avait une richesse théorique, il y avait tout un travail. Si vous prenez depuis le premier 19e siècle, les socialistes ont tout produit.
Il y avait du débat.
Ils n'étaient pas d'accord entre eux, entre un Proudhon, un Saint-Simon, un Fourier, etc. Mais ils ont tout donné. Ils ont, sur la société, ils ont vraiment produit une richesse. Ça s'arrête d'une certaine manière avec Marx. Ça commence à s'arrêter avec Marx, où déjà, il y a une ligne qui est donnée. Avec Lénine, c'est terminé. Il y a une ligne, pas d'autonomie de pensée. On n'est même plus dans une recherche théorique, on est dans le dogme. Donc c'est terminé. Là, il y a un dogme, il y a une vérité absolue, il faut...
Et alors, comment est-ce que les bolcheviques, la direction du parti russe, a réussi à convertir ces socialistes c'est extraordinaire, en quelques mois...
Ils ne les ont pas tous convertis.
Pas tous, mais quand même suffisamment pour que, peu de temps après, on va y venir, le parti soit communiste, se sépare et s'instaure et se sépare de la SFIO. Mais il y a ce formidable voyage de Cachin et Frossard. Ouais. À Moscou, au mois de juin, juillet 2020, juste avant le congrès. Et il faut nous raconter ça, parce que c'est quand même à ce moment-là qu'on voit comment l'habileté de Lénine et Trotsky pour transformer de braves socialistes, parce que quand même Cachin avait été très critique sur le début de l'URSS.
Oui, c'est très intéressant. Et Cachin est la plaque sensible. Cachin, qui est un socialiste marxiste, guédiste, dur, mais qui, en 1914, est complètement rallié au gouvernement d'Union Sacrée dans la guerre. Il va même être un envoyé officiel ou semi-officiel du gouvernement français en 1915 pour aller financer Mussolini, autre socialiste, pour que Mussolini engage toute une campagne pour que l'Italie entre en guerre. Donc voilà, on est vraiment dans l'union sacrée, dans le nationalisme. On a laissé tomber l'internationalisme, on a oublié la lutte des classes, etc. Bon, et en 1917, rebelote. Hein, Cachin, en tant que leader socialiste français, va être envoyé en Russie pour inciter le gouvernement provisoire russe, où il y a des socialistes, à ne pas sortir de la guerre, à continuer la guerre, de manière à ce que les troupes allemandes soient, et autrichiennes, mais surtout allemandes, soient toujours mobilisées sur le front de l'Est et ne déferlent pas sur la France. Hein, donc, et on a, alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on a ces carnets. Donc, il va à Moscou, il y reste plusieurs semaines, il note tout et il parle d'un certain Lénine. Parce que c'est le moment où Lénine rentre justement d'exil en Suisse. Et alors, Cachin ne sait même pas qui est Lénine. Donc il s'informe auprès d'autres socialistes et qui lui disent « Oh non, mais Lénine, c'est un fou. De toute manière, dans 3 semaines, on n'en parlera plus. Bon. » Donc voilà, hein, les choses sont très datées à ce moment-là.
Il se passe 3 ans et alors, le même...
il se passe 3 ans et voilà que notre Cachin retourne à Moscou. Et là encore...
Mandaté par la SFIO.
Alors, mandaté cette fois-ci par la SFIO et non plus par le gouvernement français. Hein, et là encore, on a ses carnets, donc c'est passionnant. Tout ça a été publié. Hein, je dis à nos auditeurs, ils peuvent se reporter. Les éditions du CNRS à l'époque ont publié 4 gros volumes des carnets de Marcel Cachin. Le premier carnet d'avant 1914, qui était, parce qu'il faut rappeler que Cachin était le délégué à la propagande du Parti Socialiste. Il faut rappeler que, et ça c'est une très grande différence avec Lénine et les bolcheviks, la SFIO d'avant 14, il n'y avait pratiquement pas de permanents. Les cadres du parti, c'était des élus, municipaux, cantonaux, députés, etc. Et il n'y avait que quelques permanents, dont Cachin. Cachin était délégué à la propagande. Il partait toutes les semaines avec sa petite valise, sa petite carte de député, il payait pas le train, et il parcourait toute la France pour repérer tous les socialistes. Ça, c'était le premier volume de ses carnets. Le deuxième volume, c'est le voyage de 1917. Le troisième volume, c'est le voyage de 1920. Et alors là, on est dans un contexte complètement différent. Il débarque dans ce congrès de l'Internationale communiste qui se déroule dans un enthousiasme extraordinaire, puisque tous les délégués qui sont là, du moins ceux qui sont déjà communistes, sont persuadés que l'armée rouge va tout emporter. Donc il y a une espèce de folie extraordinaire qui se développe. Et Cachin et Frossard sont pris dans ce mouvement. Et puis alors, ils sont malaxés. Il faut bien dire que les bolcheviks sont des experts en manipulation psychologique et ils vont leur pratiquer une douche écossaise assez...
C'est-à-dire
C'est-à-dire, très simplement, on invite Cachin à... Alors, le congrès se déroule dans un grand théâtre, etc. Il y a un millier de gens qui sont là. Il y a les députés, il y a des types en armes, il y a de tout. C'est l'ambiance révolutionnaire. Hein. Bon, bien au-delà de ce qui se passait en 68, pour ceux qui ont connu ça. Hein. Et alors là, Cachin est... Alors, on l'accueille, il se présente sur la scène, et d'un seul coup, Lénine ou Trotsky ou un autre l'attaque. Mais comment avez-vous osé participer à ce gouvernement de bourgeois nationalistes, abominables, impérialistes, etc. Et alors là, Cachin s'effondre en pleurs. Oui, mea culpa, ma faute, ma grande faute,
alors,
etc.
Alors ça, c'est la douche froide, et après, il y a la douche chaude.
Alors ensuite, quelques heures plus tard, petite réception au Kremlin. Mais c'est presque mon cher Marcel. Alors comment ça va, etc.
Et croisière sur la Volga.
Voilà, hein, c'est la douche écossaise extraordinaire. Ça marche très bien. Alors ça marche très bien sur Cachin. Frossard, qui est beaucoup moins impliqué dans le mouvement socialiste que Cachin, est beaucoup plus réticent parce qu'il voit des choses qu'il trouve très bizarres. Mais bon.
Mais il n'y a pas que des Français qui adhèrent. Et c'est vrai qu'il y a quand même un mystère qui renvoie à l'idée politique elle-même. Puisque quand on lit la deuxième condition pour l'admission à l'international, eh bien, il y a marqué cette idée qu'à l'époque de la guerre civile acharnée, le Parti communiste ne pourra remplir son rôle que s'il est le mieux centralisé, s'il y règne une discipline de fer confinant à la discipline militaire, et si son organisme central est joué d'une autorité souveraine et bénéficie de la confiance unanime des adhérents. Ça, c'est une sacrée philosophie politique.
Oui, Hélène mais Dillas, il faut savoir aussi que ce parti va être un parti passoire. C'est-à-dire il attire beaucoup de gens qui sont fascinés par la dimension aussi révolutionnaire et utopique. Il faut voir la dimension utopique de ce mouvement. Hein. Je ne sais plus quel auteur disait, c'est la petite lumière sur la frontière, sur le fil de l'horizon. Ah oui, c'est la petite lumière.
La grande lueur à l'est aussi.
La grande lueur.
Romain Rolland, je crois, disait ça.
Il faut voir, donc c'est cela. Donc c'est un parti passoire, donc on rentre beaucoup, on sort beaucoup. Alors ceux qui restent, bon, bah, c'est les plus acharnés d'une certaine manière, les plus croyants, ceux qui veulent y croire à tout prix. Mais le parti aussi, je ne sais plus en quelle année, Stéphane, m'a failli disparaître à un certain moment. Il n'y avait pratiquement plus d'adhérents. Donc c'est cela qu'il faut voir. Le parti n'a pas toujours...
Ça, ce sont les premières années.
Oui.
1920, 1924, grosso modo.
Oui, mais là, on a en 21, oui. Alors en 1924, avec la bolchevisation du parti, c'est vrai que ça va se durcir de plus en plus. Et beaucoup vont se sauver. Il ne faut pas l'oublier quand même.
Hein. Parce qu'il faut...
Stéphane Courtois, qu'est-ce que c'est que cette bolchevisation, justement?
Il faut d'abord rappeler quelque chose, parce que souvent les gens ont l'impression que la création de ce parti communiste en 1920, c'est finalement une petite fraction de la SFIO qui part, etc. Pas du tout. Hein, c'est les trois quarts des délégués qui votent l'adhésion. Donc il y a un enthousiasme. Alors il faut bien dire que là, les bolcheviks aussi ont bien fait le travail. C'est-à-dire qu'ils ont, refait le coup de la douche écossaise, mais pendant le congrès de Tours, au mois de décembre, fin décembre 1920, quand donc a été créé le Parti communiste et qu'a été surtout voté l'adhésion aux 21 conditions, les bolcheviks ont refait le coup de la douche écossaise, puisque en plein congrès, à un moment crucial, d'un seul coup, les lumières se sont éteintes. Alors tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il une grève de l'électricité? Non, c'était pas ça. Volontairement, on éteint la lumière et quand elle se rallume, il y a sur scène une femme, une Allemande, Clara Zetkin, militante extrêmement connue, qui s'est ralliée aux bolcheviks. Hein, et donc vous voyez bien l'opération extraordinaire, l'internationalisme. D'abord, ce que j'appellerais un Allemand vient intervenir sur le thème « Nous sommes frères », alors qu'on s'est entretués pendant 4 ans soigneusement, hein, mais en plus une femme. Bon, alors, ça rajoute encore dans l'émotion, et en plus une femme qui est recherchée par toutes les polices de France, parce qu'il a été annoncé qu'elle viendrait. Et elle est là. Elle est là au nez à la barbe de tout le monde.
C'est le triomphe du léninisme.
Agit-propre élémentaire, je dirais. Bon, mais elle fait un discours sensationnel, hein, très court, qui dure 6-7 minutes, un appel à la révolution générale. D'un seul coup, la lumière s'éteint, pof, on est dans le noir. Elle se rallume une minute après. Clara Zetkin a disparu. Toute l'assemblée totalement bouleversée se lève, chante l'international, etc. Bon, ça y est, le congrès a basculé. Hein. Alors, Léon...
Mais ça, Stéphane Courtois, c'est vrai en France. Mais il n'y a pas qu'en France où il y a un impact extrêmement fort de cette nouvelle internationale. Il y a en Allemagne, il va y avoir aussi en Italie, même si ça va être beaucoup plus réduit du point de vue des socialistes dans leur ensemble. Mais il y a une adhésion qui ne peut pas s'expliquer simplement par la volonté d'être fouetté d'une certaine manière.
Ah non, bien entendu. Yolaine l'a dit, non seulement il y a un enthousiasme révolutionnaire, mais il y a une dimension utopique extraordinairement importante sur le thème « Pour la première fois, il y a un pouvoir ouvrier qui naît et qui s'installe dans un grand pays, etc. » Donc, si ça se passe en Russie, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas en France, en Allemagne, en Belgique, en Bulgarie. Parce qu'il faut bien dire que les bolcheviks... Il faut rappeler que les bolcheviks ont été la plupart du temps des militants en exil. À partir des années 1890, les révolutionnaires d'abord, puis bolcheviks à partir de 1902-1903, ils sont pour la plupart en exil, ils ont donc des contacts avec tout le mouvement socialiste européen. Et donc, ils ont des correspondants, si je puis dire, et ils vont draguer, entre guillemets, ils vont draguer un certain nombre de militants, y compris des leaders. Hein, si on regarde la Bulgarie, Georges Dimitrov bascule très rapidement du côté bolchevique. C'est déjà un leader très connu du socialisme bulgare, etc.
Bon. Et qui sera l'un des patrons de l'international communiste.
Qui deviendra, en 1934, le secrétaire général de l'international communiste jusqu'à la dissolution de l'international en 1943.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leski.
On revient, Yolaine Dillas-Rocherieux, sur les principes. Parce que on dit ces 21 conditions, il y a le contexte, il y a le caractère un peu exceptionnel de la période. Mais au fond, si on résume, c'est centralisme démocratique, organisation clandestine, dictature du prolétariat et inféodation à Moscou. En tout cas, au mouvement piloté depuis Moscou de l'international. Comment est-ce que ça va structurer à la fois la pensée et l'organisation? Mais commençons par la pensée. C'est quand même la dictature du prolétariat. On voit bien dans le discours que Blum fait au congrès de Tours que tout ça est l'objet de controverses profondes, que ce soit sur la dictature, que ce soit sur le centralisme, que ce soit sur l'inféodation à Moscou et le patriotisme. Alors, comment est-ce que ça va, au fond, être les trois ou quatre piliers de...
Mais tout ça va se faire progressivement, parce que je pense qu'au départ, beaucoup n'ont pas pris au sérieux ces 21 conditions. Beaucoup ont cru que, bon, d'accord, 21 conditions, mais on peut laisser de côté tout cela. Puis progressivement, voilà. Mais bon, moi, j'ai pas travaillé sur l'histoire, mais surtout sur... Il faut voir à ce moment-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la dimension utopique du mouvement. Donc d'un côté, quelque chose de plus en plus rigide, d'organisation, etc., avec une épuration continue du mouvement pour garder les meilleurs, si on peut dire. Et de l'autre, c'est dans la dimension utopique, c'est-à-dire que lisez tous les retours du RSS à partir de 1920, déjà, qui sont publiés en France, qui sont publiés dans toutes les langues. Tous ceux qui vont là-bas reviennent et témoignent, et on est au paradis. C'est-à-dire que en France, bon, bah, c'est quand même on est encore dans une période où, entre les deux guerres, où la vie n'est pas facile pour la majorité des ouvriers, etc. Et on leur envoie une image d'un pays où tout est formidable. Tout est formidable. Les gens sont heureux, ils ont du travail, ils mangent bien, ils sont bien logés, ils chantent, ils dansent, voilà. Donc,
c'est le pays de l'espérance.
C'est le pays de l'espérance et voilà, là-bas, ils ont réussi. Voilà, et on renvoie cette image. C'est un peu le rôle de l'utopie, hein, c'est image négative contre image positive. Ici, c'est l'horreur, là-bas, c'est merveilleux. Il faut se battre. Mais c'est quand même un sacrifice.
C'est quand même en rupture profonde. Par exemple, sur la dictature du prolétariat, et le discours de Blum est très explicite, très clair là-dessus. Soit c'est provisoire en cas de difficulté de la révolution, soit c'est permanent. Et Blum dit, attendez, là, vous en prenez pour un bon moment. Idem sur le centralisme démocratique, qui est une sorte de hiérarchie descendante depuis la direction jusqu'à là, et non pas... ce qui était théoriquement la règle des partis socialistes de faire remonter de la base et vers le sommet des aspirations.
Mais c'est ce que je disais au départ, ouais. C'est pas pris au sérieux.
Et pourtant, Blum le leur dit très clairement.
Oui, mais il n'y croit pas.
Attention.
Attention, il y aura des coups de bâton, mais il n'y croit pas. Et donc c'est pour ça que ce parti, pendant des années, va être un parti où on rentre, on sort et on va garder les meilleurs. Et c'est cela qu'il faut voir. C'est un travail qui se fait en profondeur progressivement, de là-haut, c'est-à-dire de Moscou, qui va former les dirigeants, qui va former les militants. C'est plus en France, ça ne va pas se faire en France, ça se fait là-bas. Et progressivement, eh bien...
Là-bas, et écornaqué par les missiles Dominici de Moscou.
Bien sûr.
Dès les années 20.
Bien sûr.
Alors, il y a cette obsession... de la rupture avec la société bourgeoise qui va amener à cette 22e condition qui n'est pas explicitée justement au moment de ce congrès. Et on peut rappeler ce que disait Trotsky, vous avez cité tout à l'heure, et qui dit tous les dirigeants communistes, voilà, nous vous demandons de rompre non seulement formellement, mais en fait, par vos idées, par vos sentiments, par votre attitude totale, de rompre définitivement avec vos anciennes relations, vos rapports d'autrefois avec la société capitaliste et ses institutions, et donc de rompre avec la franc-maçonnerie.
Et oui, évidemment, Évidemment, parce que le mouvement socialiste était... Enfin, il n'y avait pas que des francs-maçons dans le mouvement socialiste, bien entendu, mais il y avait quand même beaucoup de francs-maçons dans le mouvement socialiste, tout simplement parce que la franc-maçonnerie était un mouvement très puissant et très dynamique au début du XXe siècle en France, et que ce soit les socialistes ou que ce soit les radicaux, qui étaient le grand parti de centre-gauche qui dirigeait le pays, il y avait, je dirais presque, d'une certaine manière, l'adhésion à la franc-maçonnerie était presque obligatoire si on voulait avancer un petit peu dans la carrière, etc. Bon, hein, et alors ça, Lénine, évidemment, ne pouvait pas le supporter de deux points de vue. D'abord parce que la franc-maçonnerie est une organisation, je ne dirais pas secrète, mais quand même discrète, hein, semi-clandestine, disons.
Ça aurait pu aider à l'organisme de clandestin.
Oui, non, mais justement, il trouvait que deux organismes clandestins dans la même maison, c'était un petit peu trop, hein, et que justement, avec les francs-maçons, on ne saurait pas à qui on aurait affaire, donc ça ne pouvait pas continuer. Et puis surtout, il comprenait très bien qu'à travers la franc-maçonnerie, toute une partie des socialistes était en contact étroit avec les radicaux, c'est-à-dire le centre-gauche, qui pour Lénine et ses amis, c'était l'abomination de la désolation bourgeoise. Donc, il n'était pas question qu'on tolère ça. Alors, et c'est d'ailleurs ce que disait Yolène, c'est une des premières choses que tous ces socialistes qui, dans l'enthousiasme, ont adhéré aux 21 conditions fin décembre 1920, c'est quelque chose qu'ils n'imaginaient pas, qu'on puisse leur interdire d'être franc-maçons. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée loufoque, hein ? Mais là, Trotsky, lui, il était très décidé à les virer. Hein, et donc, il le disait d'ailleurs, hein, dans des rapports, etc. Il faut traiter les Français à la cravache, etc. Hein, on va pas s'embarrasser. Et on commence l'épuration. C'est comme ça que commence l'épuration. Hein, parce que dans les conditions, il y a évidemment une condition sur l'épuration. Il faudra que les partis s'épurent.
Régulièrement, dit le texte de l'International communiste.
Bon, donc, l'épuration va commencer par les francs-maçons. Parce qu'évidemment, cette 22e condition qui n'était pas dans les 21, mais qui apparaît subrepticement au bout de quelques semaines après le congrès, évidemment, là, ça provoque des réactions violentes, parce que, quand même, dans le Parti Socialiste, il y a des gens qui ont du caractère, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gros, comme on dirait, il y a des gros calibres intellectuels, etc. N'oublions pas qu'il y avait des gens comme Jean Jaurès, etc. Donc, bon, vraiment des gens qui pensaient, qui réfléchissaient, etc. Et ça a été le premier coup de semonce.
Et c'est la première grande entreprise de sélection des cadres qui va aboutir à cette formation particulière des cadres à travers le monde et qui va être la force du Comintern.
Alors, d'abord, on commence à s'attaquer aux francs-maçons. Ensuite, on va s'attaquer aux journalistes qui étaient les journalistes des journaux socialistes. Il faut savoir que coup de maître, hein, Cachin récupère les actions du journal L'Humanité à la sortie du congrès. Hein, l'homme qui détient les actions du journal L'Humanité va les confier à Cachin, et donc L'Humanité, le grand journal socialiste français qui est connu dans le monde entier, devient le journal communiste. Bon, sauf qu'il est plein de journalistes socialistes. Bon, donc là, il va falloir faire le ménage. Ça va être fait en un ou deux ou trois ans. Et puis ensuite, 1924, les premières élections législatives, un désastre pour le Parti communiste, hein, 10 députés, donc vraiment une catastrophe. Et quand on regarde la carte, c'est vraiment quelques îlots communistes dans un désert communiste ou anticommuniste, et à partir de là va commencer l'épuration.
Mais déjà des élus pleins de d'avenir. Alors ça a déjà été une procédure de sélection des meilleurs, si je puis dire.
Oui, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que le Parti communiste créé en fin décembre 1920, en 1927-28, sa sociologie n'a plus rien à voir avec la SFIO qui a voté ses 21 conditions. Hein. Il faut savoir que lors du congrès de Tours, qui vote les 21 conditions, une grande partie des fédérations qui font voter pour les 21 conditions sont les fédérations paysannes, et pas du tout les fédérations ouvrières. Alors vous allez me dire, c'est complètement absurde, puisque, en principe, le communisme s'adresse aux prolétaires, aux ouvriers. Simplement, le congrès s'est fait en partie, et même en grande partie, sur la condamnation de la guerre. Et la condamnation de la guerre, c'est d'abord les paysans qui la condamnent. Parce que dans chaque village français, il y a maintenant un monument aux morts avec le nom de tous ceux qui y sont restés. Donc voilà, ça c'est... Annie Kriegel avait très bien montré ça dans son grand travail sur la naissance du Parti communiste français. Donc c'est très bizarre. Ce sont des fédérations paysannes. Sauf que très rapidement, devant la mise en œuvre de ces 21 conditions, les paysans vont s'enfuir, évidemment. Sauf dans un endroit très particulier, le Lot-et-Garonne, pour des raisons sociologiques précises, ce ne sont pas des petits paysans propriétaires ou fermiers, ce sont des métayers. Et le métayage est un élément moteur de la lutte des classes à la campagne. Bon.
Et alors, dix ans plus tard, la sociologie a bougé comment ?
Dix ans plus tard, on a une sociologie totalement différente des jeunes ouvriers. On sélectionne systématiquement les jeunes ouvriers. D'ailleurs, il y a une condition très claire qui le dit. C'est la deuxième condition. Toute organisation désireuse d'adhérer à l'Internationale communiste doit régulièrement et systématiquement écarter des postes impliquant tant soit peu de responsabilité dans le mouvement ouvrier, les réformistes et les centristes, et les remplacer par des communistes éprouvés sans craindre d'avoir à remplacer, surtout au début, des militants expérimentés par des travailleurs sortis du rang. Donc ça, c'est très clair. On va engager, on va virer les vieux, on va virer les militants expérimentés, on s'en fout, c'est pas notre problème. On va engager des jeunes. Et justement, comme ils sont jeunes, enthousiastes, prêts à se battre et inexpérimentés, on va pouvoir les former à notre main. Et c'est là qu'on va voir arriver, évidemment, tous les missiles dominici de Moscou.
D'une part, et d'autre part, les Duclos, les Torres...
Alors, à partir de ce moment-là, des leaders vont commencer à être sélectionnés. On va les tester petit à petit. Jusqu'en 1931, là, il y a le test définitif, une affaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'affaire dite Barbet-Sellor, où toute la direction est véritablement mise sous pression par les chefs de l'Internationale. Manouilski, qui est l'œil de Staline dans l'Internationale, qui vient clandestinement à Paris participer aux réunions du bureau politique du Parti communiste français et pour dire, voilà, un tel et un tel, Barbet et Sellor, sont des scissionnistes, sont des fractionnistes, etc. Tout le monde au sein du bureau politique sait que ça n'est pas vrai. Mais il faut adhérer à cette légende, il faut entériner le mensonge si on veut continuer à marcher avec les soviétiques. Sinon, on va être balayé.
C'est à ce moment-là que se met en place un autre système de contrôle encore plus étroit, qui est le service des cadres.
Alors, effectivement, avec l'arrivée d'un fameux personnage qui a été ignoré pendant des décennies et des décennies, et dont on a... Enfin, dont j'ai personnellement découvert le dossier à Moscou en 1992-93 dans les archives. Jusque-là, on ne savait rien. Le fameux Eugène Fried, un militant tchéco-hongrois qui avait adhéré dès 1919-1920 à l'international et qui était un garçon brillant et qui va être envoyé comme le responsable clandestin, bien sûr, du Parti communiste français fin 1930. Et il le sera jusqu'en 1939 et puis ensuite jusqu'à sa mort en 1943 en Belgique.
Mais sortons de la France, ce qui est frappant quand même, c'est le cosmopolitisme de ces cadres. C'est-à-dire qu'on a justement des Tchèques qui vont en France, mais d'autres vont aller en Italie. Et on a quelque chose qui n'est pas simplement français, même si la France c'est une section importante de l'international communiste. On a un système qui va bien au-delà dans la sélection des cadres.
Ah, mais il faut voir ce qu'était réellement l'international communiste au temps de sa splendeur, c'est-à-dire du milieu des années 20 jusqu'au milieu des années 30 et même après. C'était vraiment une multinationale de la Révolution qui avait, rien qu'à Moscou, un ensemble de près de 500 militants de toute nationalité, parlant toutes les langues. On pouvait envoyer un militant français clandestinement en Chine, etc. Enfin bon, c'était vraiment un système de subversion professionnelle absolument remarquable, il faut dire, maintenant qu'on voit les archives.
Et c'était un système, Yolène Dillas-Rochorieux, d'une abnégation très forte. Il faut être structuré mentalement d'une certaine manière pour justement combattre à ce point-là jusqu'à la mort. On pense au fameux personnage de la condition humaine d'André Malraux qui va jusqu'au suicide.
Mais là, il faut voir aussi, tu n'en as pas parlé, mais l'école du parti.
Ah, les écoles
du parti en France ont joué un rôle essentiel pour faire monter les ouvriers, justement,
Et qui se mettent en place à partir de quel moment?
Je ne sais plus.
Oh, la première est de 1924, mais la police y a mis rapidement fin. Mais à partir du début des années 30, là, les choses se mettent en place de manière très sérieuse.
Il faut lire les brochures de l'école du parti. C'est fondamental, c'est-à-dire... Et elles sont très bien faites. Justement, d'un point de vue théorique, tous les témoignages de ce qui se passe en URSS, le mythe des héros, tout cela s'accumule comme cela, et progressivement, on forme toute une...
Mais c'est pas simplement on forme, mais il y a un caractère autodidacte, c'est-à-dire que il y a une pensée qui est en même temps assez large. On va leur apprendre l'histoire de France pour les Français, ou
tout
l'histoire d'autres pays pour d'autres nationalités. C'est-à-dire que c'est pas une pensée forcément très réduite. Il y a quelque chose d'assez large.
Ah, mais c'est très large. On fait de l'histoire, on fait... Alors, les cours sur la dialectique sont absolument fantastiques. Alors, la pensée, la science bourgeoise, la science prolétarienne...
Il faut... la philosophie, on peut penser au cours de Politzer.
Lisez les brochures de Politzer sur qu'est-ce que la dialectique à partir du pépin de pomme. C'est quelque chose. Je veux dire, voilà, vous prenez un bâton, vous le mettez dans la terre, il pousse rien, vous mettez le pépin, et là, voilà, et on arrive à la révolution par ce biais. Vous voyez.
Mais alors, précisément, est-ce que c'est ça qui explique cette chose quand même assez stupéfiante quand on refait le film, l'international communiste va faire des virages à 180 degrés tous les 5-6 ans, 28, c'est les socialistes qui sont l'ennemi principal, et puis ensuite c'est le nazisme, et puis ensuite il y a le pacte germano-soviétique, etc. Et les partis communistes suivent ces changements de cap au doigt et à l'œil. Alors, qu'est-ce qui explique, alors, je ne sais pas,
il y a quand même un peu de casse.
Cette obéissance.
Il y a du départ, il y a des gens
d'accord,
qui... Mais en silence.
Mais qu'est-ce qui explique quand même, il y a un noyau dur qui suit de manière extrêmement solide. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la foi?
C'est la croyance?
C'est la foi ou c'est la peur? Est-ce que c'est la peur d'être exclu?
Alors, il y a la peur d'être exclu, parce que ceux qui sont exclus, il y en a qui ne s'en sont jamais remis.
Absolument.
Puis il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ne se sont jamais remis. Mais c'est la croyance absolue, puis c'est cette espèce d'ambiance entre camarades. Le jour où vous êtes exclu, plus personne ne vous adresse la parole. Vous êtes vraiment un pestiféré. C'est quelque chose... Donc il y a ça. On est dedans ou dehors.
Et la foi, c'est quoi? C'est au fond ce qui était le cœur de ce qu'on disait tout à l'heure sur les 21 conditions. C'est le parti a toujours raison et la direction du parti a toujours raison et le dirigeant principal, en l'occurrence Staline, a toujours raison. C'est ça le...
C'est cela et la force de l'utopie. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre ça en avant, la force de l'utopie. Lisez tous les textes sur l'URSS, mais c'est quelque chose de formidable, de merveilleux. Et donc, moi, je connaissais un monsieur, un de mes voisins qui était ouvrier et qui était allé en URSS, qui était communiste. Et je me rappelle, j'habitais dans un quartier ouvrier. Il avait des chaussures qu'il avait rapportées d'URSS. Il disait, ça, ce sont des chaussures communistes. Ça n'a rien à voir avec les chaussures bourgeoises. Donc, c'était... Donc, vous voyez, il y a une croyance, mais quelque chose de...
Parce que cet aveuglement ou cette foi, appelons-la comme on veut... a quand même conduit à des catastrophes politiques majeures, comme le basculement de l'Allemagne en 33. Avec, enfin, je sais pas, lequel d'entre vous veut... Est-ce qu'on est quand même, que ce soit en Allemagne ou en Chine, et puis ensuite, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on est quand même dans des virages qui conduisent à de vraies catastrophes politiques?
Ah oui,
Stéphane Courtois.
À de vraies catastrophes politiques en général, par exemple en Allemagne, puisque Staline faisait tout pour que le Parti communiste allemand, qui à l'époque était le plus puissant parti communiste en dehors du RSS, pour que ce Parti communiste allemand ne s'allie absolument pas avec la social-démocratie allemande. Alors que si les communistes allemands s'étaient alliés à la social-démocratie allemande, jamais Adolf Hitler n'aurait gagné les élections de 1933. Donc voilà, c'est de 32, il serait devenu chancelier en 33. Donc voilà, mais c'était aussi souvent un désastre pour le Parti communiste lui-même. Hein. Si on prend le Parti communiste français, en 1939, en août 39, Staline signe ce fameux pacte de non-agression avec Hitler, qui très rapidement apparaît à tout le monde comme le pacte d'agression contre la Pologne, hein, ce qui oblige le gouvernement français à interdire le Parti communiste français, et ce parti qui, le 14 juillet 1939, fêtait massivement le 150e de la Révolution française avec au moins 200 000 adhérents, 4 mois plus tard, il n'y avait plus personne. C'était un sauf qui peut général, et y compris avec des séquences violentes où, avant d'être mobilisé, des militants communistes, puisque ce parti était désormais essentiellement un parti de jeunes hommes, et donc mobilisable en 1939, des réunions où ces militants déchiraient leurs cartes, la jetaient à la figure du responsable communiste qui essayait de leur expliquer pourquoi Staline avait signé avec Hitler. Donc voilà. Et le parti s'est effondré complètement. Et d'ailleurs, le parti qu'il va ressortir en 1945 à la Libération, une nouvelle fois, n'a sociologiquement et politiquement plus rien à voir avec celui de 1939.
Mais ce n'est pas le cas qu'en France, d'une certaine manière. Il y a un aspect phénix qui montre la force de ce dispositif organisationnel.
Absolument. Et ça, c'est la puissance du logiciel organisationnel défini par les 21 conditions. On peut critiquer les communistes sous tous les angles. Il y a un point sur lequel on ne peut pas les critiquer, c'est la puissance de leur modèle d'organisation, hein, qui leur permet justement de survivre, de résister dans les conditions les plus difficiles, parce que le Parti communiste chinois, hein, en 1928, 29, 30, il n'en restait plus grand-chose. Bon, et pourtant, en 1949, il s'empare du pouvoir dans le pays le plus peuplé du monde, etc. Donc voilà, on est quand même, et c'est la même chose d'ailleurs pour le Parti soviétique, hein, parce que quand même, la situation de l'URSS en décembre 1941, c'était un immense désastre. Il n'empêche que le 9 mai 1945, l'URSS devient la deuxième superpuissance mondiale.
Et donc, alors, entre les deux dates, il y a 43, et pour faire plaisir, si je puis dire, et obtenir le soutien des alliés occidentaux, Staline dissout le Comintern.
Absolument.
Mais, et en même temps, le système perdure pendant 40 ans.
Alors, non seulement il
et comment perdure-t-il ?
Non seulement il perdure, mais il s'aggrave, si je puis dire. Parce que dans les relations entre les différents partis communistes et Moscou, c'est-à-dire Staline, qui commandait tout, il y avait quand même cette instance. Il y avait une espèce d'instance qui était l'Internationale communiste et qui était une instance, entre guillemets, de filtrage, de relais, de etc. Bon, d'un seul coup, elle est liquidée. Et du coup, la courroie de transmission, si je puis dire, va être direct cette fois-ci entre Staline, qui est le chef de tout le système communiste mondial à partir de 1945, hein, parce que là, le système s'étend dans le monde entier, à commencer par l'Europe centrale et orientale, où sont installés des régimes communistes, puis la Chine, le Vietnam du Nord, etc. etc. Donc, Staline est à la tête de tout ça, et il faut rappeler que Staline était un homme, je sais bien que ça ne fait pas toujours plaisir quand je dis ça, mais j'avais même fait un léger scandale à l'Académie des sciences morales et politiques en définissant Staline il y a quelques années comme le plus grand homme politique du XXe siècle. Bon, il y avait eu un léger blanc, j'avais évidemment précisé que ça n'était pas le plus grand démocrate. Mais bon, si on ne comprend pas que cet homme avait des capacités de professionnels politiques exceptionnels, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de 1945, en l'occurrence 1943, dissolution de l'Internationale, Staline va piloter les choses en direct en convoquant le secrétaire général de chaque parti communiste. C'est-à-dire que le secrétaire général, qui a fait ses preuves désormais, parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés pendant toutes les années 20, mis en place au début des années 30 dans tous les partis, et qui, à travers la guerre, le pacte germano-soviétique d'abord, et puis ensuite la guerre, ils ont fait leurs preuves, on a confiance en eux, et donc, c'est comme aux échecs, c'est le roi, c'est la pièce maîtresse. Si vous perdez le secrétaire général, c'est fichu. Mais à partir de ce moment-là, Staline gouverne tout ça en direct, c'est-à-dire que Maurice Thorez va être convoqué deux fois, hein, on a les sténogrammes de ces réunions, une fois en décembre 1944, juste avant de revenir en France, où il a passé toute la guerre, une fois en novembre 1947, et là, c'est le sténogramme est très clair. Thorez remercie Staline de le recevoir, et il attend ses conseils et ses directives. Bon.
Mais Yolaine Dillas, Rocherieux, mais en même temps, on voit bien que dans cette part d'utopie, ce qui peut permettre une adhésion, puisqu'il y a une pensée anticolonialiste, il y a l'idée qu'il faut mobiliser les peuples du tiers-monde, qu'on n'appelle pas encore comme ça, contre les puissances impérialistes, il y a l'idée de l'émancipation qui continue de courir, donc on peut comprendre qu'il y ait cette adhésion à travers le monde.
Ah oui, oui, bien sûr qu'on peut comprendre cette adhésion, mais surtout c'est que le parti arrive véritablement à faire obstacle à tous les témoignages sur ce qui se passe là-bas. Hein, il y a des témoignages, faut pas le nier. Il y a des gens qui écrivent, qui y vont. Il y a Gide, il y a tous ces.
Il y a, on peut citer même des communistes, Anton Siliga.
Tout à fait, et puis, qui reviennent.
Mais Léon Trotsky qui va parler d'un thermidor.
Oui, ils sont considérés comme des traîtres. Ils mentent, ce sont des fascistes. Donc. Ce qui passe justement la force, comme disait Stéphane, de l'URSS et de Staline, c'est justement d'arriver à faire obstacle
au réel,
voilà, faire obstacle au réel et à faire passer cette utopie, cette idée qu'il y aura bientôt au niveau mondial un monde, un paradis où il n'y aura plus de colonisés, il n'y aura plus d'esclaves, il n'y aura plus d'exploités, etc., etc.
Mais c'est ce qui fait encore la permanence de l'idée communiste.
Oui, enfin l'idée communiste, je ne sais pas trop où elle est aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu compliqué. Il y a des gens qui se réclament du communisme, mais bon, c'est difficile de voir exactement ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à décrypter ce qu'est le communisme aujourd'hui.
On arrive, je crois, au terme de cette émission. Mon cher Didier, quelques mots de conclusion.
On pourra dire quand même que ces 21 conditions d'admission à l'international communiste auront été d'une grande efficacité organisationnelle. Elles auront permis de structurer un mouvement communiste mondial qui va perdurer en réalité jusqu'aux années 80. À travers le monde, on peut dire qu'il va plusieurs fois changer la marche des choses à travers des victoires et des défaites. On a parlé tout à l'heure de l'Asie qui a été un grand lieu de victoire du mouvement communiste international avec la guerre du Vietnam, bien sûr la Chine, mais aussi on peut parler des équipes qui ont permis à l'armée rouge de garder ou de gagner l'ensemble de l'Europe orientale. Voilà. Et donc, tout ça va finir par disparaître progressivement, bien sûr. Hein. C'est d'abord le fait qu'on ne peut plus cacher le goulag, comme on en l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la révélation, le moment Solzhenitsyn, on pourrait dire. Hein. Et puis, la chute du mur qui va être le dernier moment de d'effondrement de l'ensemble de ce système. Il n'en reste au fond que des caricatures. On peut parler du Parti communiste chinois qui s'appelle communiste, mais enfin, qui est à la tête d'une société qui est manifestement plus capitaliste que communiste. Et puis, des nostalgies critiques ou complaisantes sous des formes diverses. Merci Yolaine Dillas-Rocherieux.
Merci
Stéphane Courtois.
Merci.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Préparation Séam Boutata, prise de son Valérie Lavalard, réalisation Guillaume Baldi. Demain, le manifeste des intellectuels fascistes.